vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Charlotte Vuccino, avec qui nous allons parler d'hygiène de vie et de bonnes habitudes au travail. Anne-Charlotte a découvert le yoga à la suite d'un grave accident de la route. Elle a retrouvé l'usage de sa jambe grâce à cette discipline millénaire et en a découvert les effets thérapeutiques. À 30 ans, elle a quitté un job en or dans le digital pour partir se former en Inde comme professeure de yoga thérapeutique. Et en 2015, elle fonde sa start-up RH Yogiste pour prévenir les méfaits du stress et de la sédentarité au travail. Mais quand on regarde Yogiste et qu'on creuse un peu, on a l'impression qu'il y a du yoga partout, mais sans yoga, et que c'est un peu cet entre-deux-là. Anne-Charlotte va nous expliquer tout ça. Salut Anne-Charlotte et bienvenue.
Bonjour Rémi.
Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point alors, et nous présenter un peu la mission de Yogiste ?
Oui, alors la mission de Yogiste, c'est effectivement pas de faire du yoga à tout le monde. En fait, l'important dans Yogiste, c'est pas Yogiste, c'est notre marque, notre mission en dessus, c'est le well at work, faire en sorte que le travail soit vraiment la santé, ou en tout cas soit enfin la santé. Et en fait, c'est vraiment le syncrétisme que j'ai réalisé entre le yoga et le monde de l'entreprise, cette méthode Yogiste, puisque moi je venais d'un monde très corporate, conseil en stratégie, diplômé d'HEC. Et quand j'ai découvert le yoga et ses disciplines thérapeutiques, je me suis rendu compte que finalement, ceux qui en avaient le plus besoin, c'était ceux qui travaillaient toute la journée, qu'ils soient patrons, salariés ou collaborateurs, devant un écran ou même, pourquoi pas, dans une usine ou sur le terrain. Et donc, Yogiste, c'est une méthode de prévention des maux du travail et du télétravail, donc de prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle troubles musculo-squelettiques. Aujourd'hui, c'est le mot un peu chic pour parler de tension chroniques musculaires qui peuvent devenir sacrément invalidantes et handicapantes, à partir d'exercices très simples à faire sur sa chaise, à son poste de travail, sans se changer, sans transpirer, sans matériel et surtout sans chakra, rien d'ésotérique, pour plaire à des esprits cartésiens comme à nos membres APM.
Ah, c'est ça, mais c'est donc pour cette raison-là. Là. La dernière phrase m'interpelle parce que c'est vrai que tout en préparant cette interview, je me disais, mais c'est étonnant ce truc. Déjà, tu appelles ça Yogiste, la méthode. Et tu passes ton temps dans tout ce que j'ai entendu à essayer d'expliquer que bon, oui, d'accord, mais c'est pas si yoga que ça. Mais en fait, c'est ça. Tu as besoin de séduire les cartésiens et de leur faire faire ce grand écart entre l'art ancestral, l'énergie et le bien-être. On va essayer, allez, le pari que je vais essayer de faire, c'est que tu nous aies donné à la fin de cette discussion quelques méthodes, quelques techniques concrètes, pourquoi pas quelques petits exercices qu'on pourrait faire derrière, le tout en audio, donc gros challenge. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous faire le topo de où on en est ? On se parle, on est en novembre 2021, on en est où de tous ces problèmes-là, tous ces mots que tu viens de nous décrire dans l'univers du travail ? Après, en plus, un an et demi où le télétravail post-Covid s'est vraiment démocratisé. On en est où alors ?
On en est à un moment qui est pour moi assez savoureux parce que moi j'ai créé Yogiste il y a 6 ans et demi et à l'époque on parlait pas encore beaucoup de start-up RH, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail. Le paradigme n'était pas encore vraiment à l'humain dans l'entreprise et donc j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert quand je parlais des maux du bureau ou du travail sur écran liés à la sédentarité, liés à l'hyperconnexion, liés au manque d'activité physique. Et là, avec la Covid, avec ces confinements successifs et avec ce télétravail qui s'est généralisé et qui se prolonge parfois, eh bien tout le monde a ressenti dans sa chair ce que c'était qu'un trouble musculo-squelettique, ce que c'était que l'hyperconnexion, ce que c'était que de rester vissé sur sa chaise 6 heures, 8 heures, 12 heures par jour, puisque la seule alternative à l'écran d'ordinateur une fois qu'on avait fini notre journée de travail, c'était le sofa et la télé du salon. Et du coup, c'est assez dingue aujourd'hui de voir que la question de la santé au travail et du bien-être au travail ne sont plus seulement la cerise sur le gâteau que cela pouvait être il y a encore 3 ans, mais sont devenus un levier d'attractivité et de rétention des talents dans les entreprises, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les collaborateurs ont énormément souffert pendant les confinements. Le télétravail a été une libération pour quelques-uns, mais aussi une énorme souffrance pour beaucoup qui n'avaient pas de poste de travail adapté, qui n'avaient pas de grand salon pour travailler, qui étaient parfois coincés avec des conjoints et des enfants dans les pattes. Et surtout, parce qu'ils ont tout simplement pris conscience que leur corps et que leur cerveau ne sont pas faits pour rester assis devant un écran toute la journée. Et ça, c'est, je pense, le point commun de tous les humains. Et donc aujourd'hui, cette question de la santé au travail, cette question de la qualité de vie au travail, elle devient un levier de management absolument clé pour faire revenir des équipes au bureau, sur site. Certains dirigeants ont du mal à faire revenir leurs collaborateurs, certains ne les ont pas vus depuis 18 mois, et pour faire en sorte que leurs équipes puissent travailler sans s'abîmer et télétravailler quand on met en place des modes de travail hybrides sans se casser. Et du coup, ces questions-là sont devenues vraiment centrales, alors que jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de santé au travail, de qualité de vie au travail, de sport en entreprise, voire de yoga, les sourcils se levaient, des airs très méprisants s'inscrivaient sur les visages et on avait encore du mal à convaincre. Exactement. Les trucs de bobo, d'enfants gâtés.
D'enfants gâtés. Concrètement, ça se manifeste comment les maux dont tu parles, on se bloque le dos, on a des douleurs cervicales, on a quoi? C'est quoi les symptômes concrets là?
Bah, dans la méthode yogiste, on a ciblé très spécifiquement tous les symptômes liés à ce mal-être au travail et à ce travail sur écran. Et donc, ça prend deux formes. Des formes très physiques, fatigue oculaire, les yeux qui sont les premiers à être impactés par le travail sur écran et qui sont des muscles. Et donc, si on les travaille pas régulièrement, évidemment qu'on finira notre journée comme un lapin myxomateux. Le cou, oui, les cervicalgies chroniques, les tensions dans les trapèzes dont on se plaint tous et pour lesquelles on va systématiquement voir un kiné ou un ostéopathe quand il est déjà trop tard. Mal de dos, se bloquer le dos ou tout simplement avoir des espèces de saucisses de contracture entre les omoplates ou même des lombalgies ou des sciatiques qui commencent à se multiplier. Et je ne parle pas des hernies discales qui touchent de plus en plus de travailleurs, de plus en plus jeunes et qui sont vraiment un reflet de cette sédentarité. La tendinite de la souris fait une percée aussi importante. C'est cette tension dans le pouce.
Ouais, il y a des choses. Il y a aussi une question de hardware, non? Peut-être aussi, ou d'équipement du poste de travail. Mais toi, c'est pas là-dessus que tu bosses. Toi, c'est sur comment, petit à petit, dans la journée, on peut mener des exercices pour pouvoir détendre tous les muscles qui sont maltraités là.
Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Rémi. La première tentation lorsqu'on a une tension, c'est de se retourner contre son matériel. De se dire, c'est la faute de ma souris, c'est la faute de mon écran, c'est la faute de mon bureau ou de mon siège qui est pas assez ergonomique. En fait, une fois que vous aurez dépensé des centaines d'euros dans de l'équipement, vous vous rendrez compte qu'en fait, les capex et le mobilier, même s'il est le plus ergonomique du monde, si vous restez assis toute la journée sans bouger, ne changera absolument rien à vos douleurs. En fait, il y a de plus en plus d'études menées par des ostéopathes et des chercheurs qui montrent que le problème, c'est pas la position assise prolongée, c'est la sédentarité. C'est la position assise maintenue sans bouger. C'est le manque de mouvement qui a l'origine de tous ces maux-là. Et donc, pour la tendinite de la souris, tu pourras évidemment changer ta souris et adopter un joystick, mais si tu ne fais pas régulièrement travailler tes muscles, tes articulations, des mains et des poignets, tu auras de toute façon mal. Et si ce n'est pas au poignet directement, tu vas compenser et tu auras mal à l'épaule, dans le cou. On a des gens qui ont des tensions chroniques dans le cou et qui se rendent compte que ça vient de la mauvaise position de leurs mains et de leurs gestes répétitifs sur le clavier. Donc, le message de Yogi, c'est de dire, oui, bien sûr, la prévention primaire, l'installation du poste de travail, l'ergonomie, c'est important, mais la prévention secondaire, ce no man's land qu'il y a entre le matériel et la prise en charge du trouble lorsqu'il survient, c'est le plus important et c'est de la formation, de la pédagogie qu'il faut absolument apporter aux travailleurs pour contrer ces maux physiques que je t'ai cités à l'instant, mais aussi des maux un peu plus mentaux, fatigue mentale, épuisement, hyperconnexion, insomnie, problème de concentration qui touchent de plus en plus de travailleurs et de dirigeants à l'ère du poisson rouge lorsqu'on est tout le temps dérangé dans un open space, dérangé par des notifications, par le téléphone qui sonne et par les emails qui nous arrivent au compte-gouttes.
J'ai une question avant que je te mitraille de questions pour que tu m'expliques concrètement les petits exercices que tu nous suggères de faire et la façon que toi t'as d'installer ça dans les chroniquement en tout cas et régulièrement dans la vie. Une question, c'est pour quelles raisons on attend toujours d'être bloqué pour intervenir et pour avoir envie de prendre en compte, parce que tout ce que tu décris là, on le ressent plus ou moins, hein, on en est tous assez conscients globalement, et pourtant on n'a pas envie de bouger tant qu'on n'est pas bloqué, tant qu'on n'est pas à devoir prendre un rendez-vous chez l'ostéo. Comment t'expliques ça, toi?
Alors, Moi, je mets beaucoup ça sur notre dos de Gaulois réfractaires, hein, sans vouloir caricaturer. On sait très bien ce qu'il faut qu'on fasse pour être bien et on attend le dernier moment ou quand c'est déjà trop tard pour réparer les dégâts. Parce que ça nous ennuie, parce que ça prend du temps, parce que c'est chronophage. Ricard appelle ça l'acrasie, le fait de faire exactement le contraire de ce qu'on sait être bon pour nous. Je pense que c'est très français, c'est très européen, parce que finalement, dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup moins répandu que chez nous. Les salles de sport sont tout le temps remplies, on fait du sport à l'heure du déjeuner, on mange vegan, on mange healthy, ils sont vachement plus en avance que nous là-dessus. Et quand on regarde du côté de l'Asie, le fait de faire des échauffements au début d'une prise de port dans une usine, c'est la base de la base. Et au Japon, c'est non seulement collectif, mais obligatoire. Donc, je pense que c'est à la fois dans notre culture de Gaulois, mais aussi par manque d'éducation et manque de pédagogie. Les petits enfants indiens, quand ils sont à l'école, on leur apprend que le yoga, c'est la même chose que se brosser les cheveux ou que se laver les dents, mais pour l'intérieur du corps, et c'est aussi indispensable et incontournable. Nous, on nous a pas fait cette pédagogie-là, et on attend souvent trop tard aussi pour nous apprendre les bons moyens de vivre bien et d'être en bonne santé. Et quand on regarde notre système de santé extrêmement axé sur le curatif, on se rend compte que c'est pas complètement notre faute.
Bon, donc toi, tu prêches hein, tout ça et on espère que les lignes vont bouger. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de la respiration et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement déjà avec un premier sujet qui est la respiration?
Oui, le sujet de la respiration, c'est le premier sujet que j'aborde dans mes expertises APM, d'ailleurs dans la journée. Respirer, c'est la clé. C'est la clé de plein de choses. Ça permet de rester en vie, c'est pas négligeable, hein, c'est plutôt utile. Mais la respiration, en fait, c'est tout simplement le moyen le plus direct que l'on a pour agir sur notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est le système nerveux sympathique qui nous permet de monter dans les tours, d'être performant, d'être réactif, d'être bon dans ce qu'on fait, de mettre de l'énergie dans notre cerveau quand on a besoin de faire une présentation en public, quand on a besoin de mettre en place un plan stratégique, quand on a besoin de faire face à une crise, mais aussi le système nerveux parasympathique, celui qui nous permet de redescendre, de faire retomber la pression, de dormir convenablement, de remettre de l'énergie dans le système de la digestion, de recharger les batteries. Et la respiration, c'est ce qui permet aussi bien de se booster quand on a besoin de se booster, quand on a une grosse échéance de boulot par exemple, mais surtout de relâcher toute cette tension, toute cette pression. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus fort pour se booster, pour se pousser, pour se tendre et pour être bon dans ce qu'on fait, que pour se détendre. Et je vois aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens qui me disent « mais je fais ce qu'il faut pour me détendre. Quand je rentre chez moi, après une grosse journée de boulot, je me mets dans mon canapé, je regarde 6 épisodes à la suite de Netflix, je me vide la tête. » Et en fait, pas du tout. On a l'impression qu'on se vide la tête, mais c'est pas ça qui va envoyer au système nerveux et donc au corps le signal que « ok, c'est bon, on va vraiment physiologiquement faire retomber cette pression-là et on va faire barrière, bouclier au stress. » Donc, la respiration, ça permet…
Est-ce que c'est long
Oui, tu dis ?
C'est difficile d'apprendre. Là, il te faudrait beaucoup de temps pour nous expliquer des exercices. Je veux dire, il y a un temps d'apprentissage important ou… Ou en quelques minutes, n'importe qui est capable d'accéder à des choses déjà.
On sait déjà respirer, sinon on serait plus là. Donc, c'est assez facile de changer la manière dont on respire. Et surtout, c'est encore plus facile quand on voit ce que ça peut donner en termes de productivité ou d'efficacité. Parce que la respiration, donc, ça aide à gérer son stress, gérer sa détente, mais aussi gérer sa concentration. Si j'arrête de respirer et que je continue à vous parler, je vais avoir un trou noir. Je vais perdre le fil de mes idées. Et donc, pour une prise de parole en public ou pour tout simplement être plus efficace dans son boulot quand on a un coup de fatigue ou un coup de mou, c'est aussi hyper, hyper efficace. Et donc, voir les effets que ça va avoir immédiatement sur notre journée de travail, sur notre productivité, c'est souvent une bonne motivation. Et un truc tout, tout bête qu'on peut faire n'importe où, à n'importe quel moment de sa journée, que l'on soit à son bureau, en réunion ou même dans le métro ou dans le train, c'est tout simplement de fermer les yeux et de faire ce que j'appelle moi la respiration carrée, que les dirigeants à l'APM aiment beaucoup parce que ça permet de se concentrer avant une prise de décision importante par exemple et de faire le vide quand on a trop de pensées parasites qui nous assaillent. Donc, respiration carrée, c'est hyper simple. Tu respires juste par le nez, tu fermes la bouche. On ne respire pas par la bouche en yoga ni chez yogiste. Et tu vas inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4, retenir ta respiration pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4, expirer sur 4 temps. 4, 3, 2, 1, et retenir ta respiration, les poumons vides cette fois, pendant 4 temps. 4, 3, 2, 1. Et tu peux faire ça 4 fois, 10 fois, 12 fois, autant que tu veux. Et si tu sens que tu as besoin de respirer encore plus profondément, tu peux augmenter les comptes. Tu peux faire ça avec 5 temps, 6 temps, 10 temps. L'important, c'est de respecter ce carré, autant de comptes à l'inspiration que sur les rétentions et les expirations.
Et tout avec le nez. On n'ouvre pas la bouche.
Tout avec le nez, et ça aussi c'est une nouvelle habitude à prendre, parce que quand on fait du jogging ou quand on fait n'importe quel autre sport, on nous apprend à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Alors que chez Yogiste, on insiste sur l'inspiration et l'expiration par le nez, parce que quand tu inspires et tu expires par le nez, tu peux beaucoup mieux maîtriser ton souffle, et quand tu maîtrises mieux ton souffle, tu maîtrises mieux l'effet que tu vas avoir sur ton système nerveux, sur ta détente typiquement.
Donc respiration, ça c'est l'axe numéro 1, la respiration 4 temps, effectivement elle est tout à fait à notre portée, en plus elle est très mémotechnique, donc merci pour ce premier tuyau. Ensuite, il y a les yeux, le cou, les doigts, les poignets, les jambes, il y a encore tout le reste du corps. Est-ce que tu pourrais nous donner encore un ou deux petits tuyaux qu'on puisse appliquer facilement tout seul devant son écran ou en voiture?
Oui, alors... En fait, le seul message à retenir, le seul truc à retenir, c'est que bouger, c'est la santé. Le mouvement, c'est le seul antidote, le seul vaccin à la prochaine épidémie qui va nous arriver dessus, qui est celle des tensions musculaires, des troubles musculo-squelettiques. Il faut absolument trouver toutes les occasions possibles pour bouger. Bouger, c'est se lever pour passer un coup de fil, c'est se lever pour aller voir un collègue au lieu de lui envoyer un email, c'est prendre ses pieds au lieu de la voiture pour aller au bureau si on en a l'occasion. C'est vraiment ça qui est le plus important, et c'est d'ailleurs la nouvelle campagne de prévention de l'assurance maladie contre le mal de dos. Et donc bouger, c'est évidemment la mission de Yogi, c'est d'apprendre aux collaborateurs comment bouger à leur poste de travail quand ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont bien obligés de rester devant leur écran pour bosser. Et donc on a plusieurs techniques pour diffuser ces bonnes pratiques dans l'entreprise. Ça passe par de la sensibilisation. C'est ce qu'on fait avec ce podcast, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les sessions nomades au sein des postes de travail, au sein des open space. On va passer à l'intérieur des organisations, sur les plateaux, dans les usines, pour aller à la rencontre des collaborateurs et leur montrer comment ne pas se casser le dos, comment étirer leur cou et comment bouger leurs jambes. Ça passe aussi par des interventions en surprise pendant un comité de direction, pendant un séminaire en interne ou pendant 10 minutes, on va pouvoir faire bouger les collaborateurs qui sont présents pour les aider à travailler et à écouter ce séminaire tout en n'ayant pas mal au dos et en restant efficace. Mais pour avoir un impact pérenne et disons individualisé, le digital est notre ami. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque on a pour mission de prévenir et de soulager les impacts du tout digital, et pour ça, le digital est notre allié pour transmettre au plus grand nombre ces techniques. Et donc, on a créé un garde du corps en ligne qui s'appelle le chatbot Yogiste, qui est un petit robot qui va vous dire « Toc, toc, Rémi, ça fait 2 heures que t'es assis sur ton écran, là, ça va pas du tout, il est temps de faire une pause pour ton cerveau ou pour ton corps », et qui va te poser 3 questions. Où est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as mal aux yeux, au cou, au dos? Tu choisis la partie de ton corps que tu as besoin de travailler, de soulager. Tu dis si tu es plutôt fatigué, tu as besoin d'un coup de boost plutôt que d'aller te jeter sur la machine à café, ou si tu as besoin de te détendre. Tu dis si tu es tranquillement chez toi en télétravail ou si tu es au bureau, et là on va plutôt rester discret. Et sur la base de ces 3 critères, cette petite appli sur ton ordinateur ou sur ton téléphone va te proposer un exercice de 2 minutes en vidéo à faire quand tu en as besoin, là maintenant, tout de suite. Et du coup, c'est ces techniques-là qu'on a digitalisées pour les transmettre et pour les diffuser via le digital au plus grand nombre. Et ça passe par des exercices extrêmement simples. L'exercice du rugbyman qui consiste à faire un renforcement isométrique pour réveiller les muscles du cou, c'est vraiment le truc majeur pour renforcer et réveiller les muscles du cou avant de les étirer et pour supprimer les tensions dans les trapèzes. Le chat et la vache, c'est un exercice yogiste à faire sur ta chaise pour alterner les flexions avant et les flexions arrière de la colonne vertébrale quand on est voûté toute la journée devant son écran et qu'on a une espèce de bosse qui est en train de se faire dans le dos, un dos de tortue qui est en train de se faire. Le jogger, c'est un exercice qui permet d'étirer l'arrière de tes jambes pour prévenir les tensions dans le bas du dos, parce que de manière complètement contre-intuitive, prévenir les lombalgies et les sciatiques, ça passe avant tout par étirer les ischio-jambiers, qui sont les muscles de l'arrière des jambes et qui sont directement reliés à l'arrière du dos. Donc c'est vraiment en passant ces petits messages de prévention, en apprenant à chacun comment fonctionne son corps au travail et en lui donnant accès à des outils très très simples en ligne, qu'on va pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes et faire bouger tous les jours. Et c'est ça qu'il faut, c'est bouger tous les jours. C'est pas 2 heures le week-end, c'est au moins 5 minutes tous les jours. Ça vaudra beaucoup beaucoup mieux en termes de prévention.
Anne-Charlotte, un grand merci pour cet échange, on arrive déjà à la fin. L'ambition de la PM, comme tu le sais, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil leur donnerais-tu à tous ceux qui aimeraient tout de suite là mettre en place des premiers rituels pour leurs équipes ?
Ce qui me touche beaucoup quand je fais mes expertises APM avec les dirigeants que je rencontre, c'est que souvent, ils viennent avec beaucoup de bonne volonté. Peut-être certains sont un peu méfiants ou réticents face à ces nouvelles pratiques. On parle quand même du corps au travail. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est pas complètement neutre. Et du coup, je vois qu'ils sont très nombreux à se sentir convertis assez rapidement parce qu'ils en voient les bienfaits pour eux-mêmes. Et donc, le premier conseil que je pourrais donner, enfin l'unique conseil en fait que je pourrais donner à un membre APM, à un dirigeant qui aurait envie de prendre soin de lui et donc de prendre soin de ses équipes, c'est finalement d'adapter et d'adopter ce qui lui fait du bien à lui et de le partager avec ses équipes. Dans mes expertises APM, le troisième moment de la journée, c'est une réflexion sur comment partager ce qu'on a découvert des méthodes yogistes ou d'autres d'ailleurs et qui nous ont fait du bien avec nos équipes pour que ça devienne un levier de management. Et c'est souvent là où la magie opère et où on a le plus de fulgurances et d'idées incroyables qui arrivent parce que chacun vient avec son environnement de travail différent, sa culture d'entreprise et son ADN qui est complètement différent de celui du voisin. Mais dès que on se dit bah tiens, là je sens qu'il y a quelque chose qui me fait du bien à moi pour ma performance individuelle, pour ma santé personnelle, eh bien on peut partir du principe que mes collaborateurs qui ont eux aussi un corps et un cerveau qui fonctionnent à peu près de la même façon, ça va leur faire du bien à eux et que ce qui est un win-win pour moi et pour les salariés est aussi un win-win pour l'entreprise puisque ça va évidemment contribuer au bien-être et à la performance de l'organisation au global. Donc si vous voyez qu'il y a des choses qui ont fait leur preuve sur vous, pour vous en tant que dirigeant, n'hésitez pas à le partager à vos collaborateurs. N'ayez pas peur du ridicule. Vous allez voir que beaucoup, beaucoup de vos équipes sont parfois plus ouvertes que ce que vous pensez et que si vous faites le pas d'oser leur partager quelque chose de nouveau, que ça soit un mouvement de yogiste ou de yoga, que ça soit un exercice de respiration pour la concentration au début d'une réunion, ils vous en seront infiniment plus reconnaissants que ce que vous pouvez imaginer avant d'oser sauter ce pas-là.
Eh bien, un grand merci Anne-Charlotte, ça fait beaucoup de pistes et un message très enthousiaste, un grand merci pour tout ça.
Merci à toi Rémi et merci aux membres de la PM.
À bientôt.
À bientôt.